Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir à toutes et à tous. Les terribles inondations qui font suite aux pluies torrentielles dans le sud de l'Inde ont fait au moins 324 morts. C'est un nouveau bilan qui risque bien de s'alourdir. Récit à suivre d'Antoine Guinard. Vladimir Poutine en Autriche. Demain, le président russe se rend au mariage de la ministre des Affaires étrangères autrichienne. Et c'est comme un signal que le président russe envoie à l'Union européenne, dont l'Autriche assure ces temps-ci la présidence tournante. Dans ce journal également, la décision de George Soros, dont la fondation va finalement quitter la Hongrie prochainement, en raison de la violente campagne menée contre lui par Viktor Orban. Explication de Valérie Crova. Les pires inondations survenues depuis au moins un siècle dans l'état du Kerala en Inde. Nous sommes là à la pointe du pays où des centaines de personnes ont déjà perdu la vie. Le ministre en chef du gouvernement local a expliqué l'ampleur du désastre par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur place depuis 10 jours, tout en mettant en garde contre de nouvelles précipitations à venir. Le dernier bilan officiel fait état de 324 morts. Il risque de considérablement s'alourdir. Déjà, plusieurs dizaines de millions de personnes sont touchées par la catastrophe. La correspondance d'Antoine Guinard à New Delhi.
Ce sont des scènes qui rappellent la Nouvelle-Orléans après les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Des rues et des maisons englouties, des habitants avec de l'eau jusqu'au cou ou réfugiés sur le toit de leur maison, attendant l'arrivée d'un hélicoptère. Le Kerala est sous les eaux depuis près d'une semaine, les transports paralysés et la population locale menacée par les glissements de terrain et les débris. Le gouvernement indien a réagi en envoyant l'armée, la marine et en déployant des centaines de vedettes et de bateaux pour secourir les personnes en détresse. Des dizaines de milliers de paquets de nourriture ont également été distribués alors que plusieurs zones très affectées souffrent d'une pénurie d'eau potable. L'État fait en effet face à une véritable crise humanitaire. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées dans 1500 camps de secours répartis sur l'ensemble du territoire kéralais. Les 41 rivières qui sillonnent le Kerala sont gonflées par les précipitations qui frappent la région de manière ininterrompue depuis le 8 août, à tel point que les vannes de 80 barrages ont dû être ouvertes pour éviter que la situation déjà désastreuse s'aggrave. Le chef du gouvernement du Kerala avait déclaré jeudi que sa région n'avait jamais de toute son histoire été le théâtre d'une telle catastrophe. Hormis le bilan humain qui augmente d'heure en heure, de nombreuses récoltes ont également été dévastées, engendrant des pertes colossales pour la population locale.
Antoine Guinard. Au Proche-Orient, 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza par des tirs de soldats israéliens. Des manifestations ont dégénéré en affrontements le long de la frontière avec Israël en plein effort diplomatique pour instaurer un cessez-le-feu durable. Et malgré cela, l'adjoint du chef du Hamas à Gaza affirme ce soir qu'une trêve avec Israël est proche d'être conclue. En Autriche, le petit détour que doit effectuer demain Vladimir Poutine dans une région du sud du pays fait polémique. Le président russe est annoncé au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karine Knessel. Ce qui ne devrait être au départ qu'une visite privée pose un grand nombre de questions, notamment d'ordre politique. Car au prétexte de la fête, à laquelle il arrivera accompagné d'un chœur de cosaques, Vladimir Poutine va surtout jouer son jeu favori depuis des années, tenter de diviser les Européens dans un pays qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE. À Vienne, Christian Philitz.
Désignée comme visite privée dans un premier temps, elle a été requalifiée de visite de travail par le ministère des Affaires étrangères de Vienne. Et ce n'est certainement pas par amitié pour Karine Knessel que le maître du Kremlin se rend à son mariage. Lors de la visite de la ministre à Moscou en avril dernier, il ne l'avait même pas reçue. Le chancelier conservateur Sébastien Kurz comptera parmi les invités, tout comme le numéro 2 du gouvernement, le chef du parti d'extrême droite FPÖ, Heinz Christian Strache. Celui-ci avait salué l'annexion de la Crimée. Il s'est prononcé à plusieurs reprises pour la levée des sanctions européennes contre Moscou. Et puis le FPÖ a signé en 2016 un accord de coopération avec le parti du président russe, si bien que de nombreux commentateurs et éditorialistes estiment que cette visite fait le jeu de Poutine et de l'extrême droite. En outre, elle sonne le glas de la volonté affichée de Vienne de jouer les médiateurs, notamment dans le conflit ukrainien. Kiev a d'ores et déjà fait savoir que cette visite disqualifiait l'Autriche dans cette fonction. Autre reproche, Vienne apparaît comme un maillon faible en matière de solidarité européenne face aux efforts de Vladimir Poutine de diviser les 28. Un universitaire spécialiste de la Russie a trouvé cette jolie formule. L'Autriche, a-t-il dit, devient ainsi le cheval de Troie de la Russie au sein de l'Union européenne.
Christian Filitz. En Hongrie, Open Society, la fondation de George Soros, finalement contrainte de partir et de quitter le pays. À la fin du mois, elle rejoindra Berlin, conséquence de la violente campagne politique menée par Viktor Orban, le premier ministre ultra-conservateur hongrois, à l'encontre du milliardaire américain d'origine hongroise. Explication de Valérie Crova.
Des affiches 4x3 invitant les Hongrois à ne pas lui laisser le dernier mot, des messages radio-télévisés dans la même veine et une série de lois baptisées Stop Soros, adoptées en juin, qui rend passible d'une peine d'un an de prison toute personne qui viendrait en aide aux migrants. Viktor Orban a eu raison des dernières résistances de George Soros, philanthrope d'origine hongroise et survivant de la Shoah, celui-là même qui lui permet d'obtenir une bourse pour aller étudier à Oxford. Sa fondation Open Society déménagera donc à Berlin, mais elle continuera à soutenir le travail des associations de la société civile hongroise sur les questions des droits de l'homme largement bafouées par le Premier ministre Orban. En 34 années de présence en Hongrie, la fondation Soros a également développé des programmes de distribution de lait dans les écoles, offert des équipements médicaux de pointe à des hôpitaux, encouragé l'éducation des Roms et œuvré à l'émancipation de la cause LGBT, autant de chantiers qu'elle entend poursuivre à distance. Une autre menace pèse aujourd'hui sur la prestigieuse Université d'Europe centrale, fondée en 91 par George Soros à Budapest. Réputée dans le monde entier, elle forme chaque année 1500 étudiants venus d'une centaine de pays et délivre des doubles diplômes hongrois et américains. Viktor Orban a fait voter l'an dernier une loi sur les universités étrangères qui pourrait la contraindre à fermer ses portes et à s'établir ailleurs. Des rumeurs évoquent Vienne en Autriche.
Valérie Crova. Au Brésil, la nouvelle est tombée comme une aubaine pour les soutiens de Lula, l'ancien président et nouveau candidat à la prochaine élection présidentielle. Le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé tout à l'heure au Brésil d'autoriser Lula, détenu pour corruption et blanchiment d'argent, à participer au scrutin d'octobre. Tant que tous ses appels en justice n'ont pas été examinés, Lula devrait pouvoir se présenter, estime le comité des droits de l'homme de l'ONU. À Barcelone, des cérémonies courtes mais émouvantes aujourd'hui. Un an après les attentats qui ont ensanglanté la Catalogne et les Ramblas de Barcelone, de nombreux Espagnols se sont réunis en présence du roi Felipe VI, du chef du gouvernement Pedro Sanchez et du président de l'exécutif régional Quim Torra. Les attaques du 17 août 2017 revendiquées par le groupe État islamique avaient causé la mort de 16 personnes et fait une centaine de blessés. Reportage de Pierre Chaperon.
Bienvenue à Barcelone.
Bienvenue à Barcelone. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous dans notre ville.
Barcelone,
ville de paix.
Des textes de paix lus en espagnol, en catalan, en allemand, en anglais ou encore en français, représentant les pays touchés par les attaques.
Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie.
Puis de la musique, Somewhere on the Rainbow, Imagine, Alléluia, entre autres, auront ponctué cette cérémonie qui n'aura duré qu'entre 25 et 30 minutes. Précédée par la pose d'une gerbe de fleurs sur la mosaïque de Miro par la maire de Barcelone et le président de la Generalitat, la cérémonie a été d'une grande sobriété. La Plaça de Catalunya était loin d'être remplie, mais tout le public est parti dans le silence, celui du recueillement.
Paul Magnette a décliné l'offre qui lui était faite. Le maire de la ville belge de Charleroi, à qui il était proposé de conduire la liste du Parti Socialiste français aux élections européennes de l'an prochain, a finalement refusé. Paul Magnette met en avant des raisons personnelles et notamment sa volonté d'être candidat à sa réélection à Charleroi. À Bormes-les-Mimosas, apparition ce soir d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est descendu du fort de Brégançon à l'occasion des célébrations de la libération de la commune il y a 74 ans. Dans un court discours, le chef de l'État a souligné l'extrême précarité de la liberté et du bonheur d'être ensemble. Un temps encore instable demain d'après Météo France. Le ciel sera souvent très nuageux et l'atmosphère humide. Sur les régions du centre et du sud, les éclaircies reviendront dans le courant de l'après-midi, notamment en plaine. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 20 degrés du nord au sud. Les maximales atteindront 22 à 26 degrés au nord de la Loire, jusqu'à 32 degrés au sud.